Introduction. Bienvenue dans l'univers de l'islam pour les nuls, qui vous dévoile les secrets d'une religion à la fois proche et lointaine. Vous trouverez dans ce livre tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur les croyances et les pratiques de l'islam, depuis ses origines jusqu'aux évolutions les plus récentes, et ce, aux quatre coins du monde. L'islam a une vocation distincte. Elle est la dernière religion monothéiste révélée. Va-t-elle le rester longtemps ? Les musulmans le croient fermement, car ils pensent que le cycle de la prophétie est désormais clos. Cette fermeture de la prophétie ne va pas sans poser quelques problèmes majeurs. Les autres religions étant antérieures, l'islam n'aura-t-il pas la tentation de les dénigrer pour mieux asseoir sa vision du monde et paraître comme une nouveauté ? On verra qu'il n'en est rien. Bien au contraire, l'islam reconduit en l'état les deux autres religions monothéistes et reconnaît même tous leurs prophètes. Enfin, il accepte et intègre une partie de leurs concepts et de leurs symboles.
Pourquoi ce livre ? Les événements du 11 septembre 2001 ont eu un effet profondément traumatisant et ont bouleversé le monde entier. Ils ont suscité une prise de conscience sur la nécessité de mieux connaître l'islam, dont les fondements et les pratiques sont souvent mal interprétés ou présentés de façon fausse, parfois même caricaturale. Vous trouverez ici des informations sur les séquelles douloureuses, encore vivaces 1000 ans plus tard, laissées en terre d'islam par les croisades, et vous apprendrez à mieux comprendre ce que sont les 5 piliers de la foi. Vous serez ainsi plus à même de remettre en perspective les conflits d'aujourd'hui. Si vous connaissez personnellement ou si vous travaillez avec des musulmans, ou si vous voyez se construire une mosquée près de chez vous, ce livre peut vous aider à mieux comprendre vos compatriotes musulmans et à entrer en relation avec eux. La religion musulmane est devenue la deuxième religion en France, entre 4 et 5 millions de fidèles. Sans même avoir à mettre le pied dans une mosquée ou à prier en direction de la Mecque, vous pourrez mieux comprendre en lisant ce livre ce qui attire les fidèles vers cette religion. L'auteur n'étant pas musulman lui-même, n'a pas écrit ce livre pour défendre ni pour attaquer l'islam. Sans vouloir m'arrêter au point de tension qui existe entre musulmans et non-musulmans, il ne prétend pas non plus gommer les différences de point de vue. Par ailleurs, ce livre n'est pas un ouvrage universitaire. Vous y trouverez des références à d'autres ouvrages qui, incontestablement, initient à la connaissance de l'islam, mais qui sont souvent trop succincts pour pouvoir aborder cette religion sous plusieurs angles. L'islam pour les nuls, que vous écoutez, est plus complet que ces ouvrages.
Convention d'écriture. Voici les conventions d'écriture que nous avons adoptées tout au long de cet ouvrage. Hormis dans le titre de l'ouvrage, le mot « islam » s'écrit avec une minuscule, car il s'agit du nom de la religion, tout comme on écrit « catholicisme », « judaïsme » ou « bouddhisme » avec une minuscule. Il en va de même pour le terme de « musulman », qui est utilisé pour désigner ceux qui pratiquent la religion de l'islam, de même que l'on parle de « catholique », de « juif » ou de « bouddhiste ». Le mot « islam » est le mot qui signifie en arabe « soumission à Dieu ». Le terme islamiste n'a rien à voir avec la pratique religieuse. Il s'applique à celui qui milite pour l'établissement d'un régime politique islamique, c'est-à-dire fondé sur l'islam. En Occident, on utilise les formules « avant Jésus-Christ » ou « après Jésus-Christ », c'est-à-dire « après la naissance de Jésus-Christ ». Cette datation est d'origine chrétienne, puisqu'elle part du principe que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu. De nos jours, on commence à avoir une nouvelle forme de datation qui cherche à s'affranchir de ses références chrétiennes et utilise les abréviations ANE, avant notre ère, équivalent de avant Jésus-Christ, et DNE, de notre ère, équivalent de après Jésus-Christ. Cette nouvelle forme de datation est utilisée notamment pour les ouvrages ou les expositions culturelles qui ont trait à d'autres religions que la religion chrétienne, ou qui s'adresse à un public très varié. C'est pourquoi c'est celle que nous utiliserons dans cet ouvrage. Quand le contexte permet de comprendre facilement qu'il s'agit d'une date située à partir de notre ère, je ne mentionne que l'année, sans ajouter « de notre ère ». Les références au Coran sont indiquées comme suit. Sourate 93, 6, 10. À la différence de la Bible, le Coran n'est pas un recueil de plusieurs livres. Le terme de sourate ne correspond pas au même type de découpage que dans la Bible. Il se rapproche plutôt de la notion de chapitre que nous utilisons à l'intérieur d'un livre. Les chercheurs ont émis des hypothèses sur l'origine et la signification première de ce terme de sourate, mais ils ne sont pas tous d'accord entre eux. On peut comparer ce type de référence à celui qui est utilisé dans la Bible pour le livre des psaumes. On ne dit pas que tel passage est tiré du chapitre 1 du livre des psaumes. On s'y réfère en mentionnant qu'il se trouve en psaume 1. De même, on ne parlera pas du chapitre 1 du Coran, mais de la sourate 1. Les chiffres après la virgule correspondent aux versets à l'intérieur de la sourate. Si l'on cite par exemple un passage de la Bible qui se trouve en Genèse 12, 1, 3, cela signifie que l'on se réfère aux trois premiers versets du chapitre 12 du livre de la Genèse. De même, si un passage du Coran est référencé comme étant situé dans la sourate 12, 1, 3, cela signifie que ce passage se rapporte aux trois premiers versets de la sourate 12 du Coran. L'islam utilise le terme « aya », signe, pour parler des versets. La numérotation des versets est sensiblement différente selon les versions du Coran qui existent. C'est pourquoi il pourra arriver que vous ne trouviez pas immédiatement le verset mentionné, selon le Coran que vous utilisez. Il suffit dans ce cas de lire les sept versets qui précèdent ou qui suivent celui mentionné pour trouver le verset cité dans la traduction du Coran que vous avez entre les mains. Le Coran est pour les musulmans la parole de Dieu en langue arabe. Toute traduction du Coran dans une autre langue est considérée comme une paraphrase ou une interprétation du Coran, qui ne peut se confondre avec le texte original en langue arabe. L'islam demande toujours à ses nouveaux convertis d'acquérir un minimum de connaissances du Coran en arabe. C'est pourquoi, dès que l'on s'intéresse à l'islam et au Coran, on est obligé d'utiliser des termes arabes, comme je le fais dans cet ouvrage. Les termes employés, qui sont souvent mis entre parenthèses, sont des translittérations des termes originellement arabes. Il ne faut pas confondre translittération et traduction. La traduction donne le sens d'un mot dans une autre langue, tandis qu'une translittération est simplement la transposition, écrite ou orale, d'un mot d'une langue, en l'occurrence l'arabe, vers une autre langue, dans notre cas le français. L'alphabet arabe a son propre alphabet, qui diffère du nôtre, tant par la forme des lettres que par les sons exprimés. J'ai essayé de rester aussi simple que possible. La langue arabe a, par exemple, plusieurs lettres pour la consonne T. Chaque lettre se différencie par une forme différente ou par des points placés au-dessus ou au-dessous de la lettre. Pour faciliter votre lecture, je me suis contenté de les rendre par la lettre T. Par ailleurs, comme d'autres langues sémitiques, l'alphabet arabe dispose de deux consonnes importantes qui n'existent pas dans les langues occidentales. Il s'agit de la consonne halif, qui a donné la lettre A en français, et de la consonne haïn, un son guttural qui vient du fond de la gorge, prononcé comme le R parisien grasseillé. Ces deux consonnes, difficiles à prononcer et surprenantes pour les gosiers occidentaux, sont deux lettres totalement différentes que j'ai transcrites sous deux formes différentes. Apostrophe pour halif et apostrophe inversée pour le haïn. Dans certains ouvrages, ces deux lettres sont transposées de la même façon, ce qui peut se comprendre pour faciliter la prononciation en français, mais peut induire des confusions dans le cas de deux mots rendus de façon identique en français, alors que l'un s'écrit en arabe avec un « halif » et l'autre avec un « haïn ». Étant donné que l'arabe appartient à une famille de langues complètement différentes de celle à laquelle appartient le français, il n'est pas étonnant de rencontrer des translittérations différentes des mots arabes dans les ouvrages écrits en français. Si au cours de vos lectures sur l'islam, vous rencontrez des mots similaires mais écrits de façon légèrement différente, dites-vous bien qu'il s'agit probablement d'un seul et même mot en arabe. Ne cherchez pas à savoir quelle est la meilleure façon d'écrire le mot en français. Les mots « haïd », apostrophe I, D et Aïd, A-I, tréma, D, sont deux façons de transcrire un seul et même mot arabe qui désigne les deux grands sacrifices rituels de l'islam. Dans un cas pareil, j'utilise de préférence le terme consacré par l'usage en français. L'Aïd, A-I, tréma, D, par exemple, plutôt que celui qui est techniquement plus proche de la prononciation arabe. Aïd, dans notre exemple, apostrophe I-D. De même, je parlerai de la Mecque plutôt que de Mecca, qui serait plus proche du mot arabe pour désigner la grande ville sainte de l'islam. Les noms, en arabe, sont en général très longs. C'est pourquoi je me contente d'une version abrégée en français. Ainsi, pour parler du fondateur de l'école d'interprétation juridique hanafite, j'utilise le nom Abu Hanifa plutôt que l'intégralité de son nom. Abu Hanifa al-Numan ibn Thabit ibn Zuta.
À qui s'adresse ce livre ? En écrivant ces pages, c'est à vous que l'auteur a pensé. Il a essayé de se mettre à votre place en imaginant quels étaient votre bagage culturel, vos expériences passées et vos attentes dans le domaine qui nous intéresse ici. Qui êtes-vous, ami auditeur ? Peut-être ne connaissez-vous rien du tout à l'islam, ni même à aucune autre religion institutionnelle. Peut-être souhaitez-vous aborder l'islam en comparant cette religion aux connaissances que vous avez d'autres religions ? C'est un bon moyen de faire ressortir les différences d'approche. C'est pourquoi, dans cet ouvrage, vous trouverez des allusions à des notions empruntées au judaïsme, au christianisme, à l'hindouisme, au bouddhisme, au confucianisme et au taoïsme. Vous pouvez très bien sauter ces passages si ces références à d'autres religions ne vous intéressent pas. En général, dans les ouvrages qui traitent de l'islam, la comparaison est souvent faite avec le christianisme ou le judaïsme, plutôt qu'avec les religions d'Extrême-Orient ou d'Asie. La raison en est bien simple, le judaïsme, le christianisme et l'islam sont les trois religions qui se réclament de la famille d'Abraham. Écoutez la cinquième partie. Dans le monde d'aujourd'hui, à l'heure de la mondialisation, il est important de connaître les autres cultures et les autres religions pour mieux comprendre ce qui nous anime les uns et les autres. Pas besoin d'être musulman pour comprendre l'islam. Croyants et non-croyants ont des approches complémentaires de la religion musulmane. L'auteur ne prétend pas tout connaître de l'islam. Ne croyez pas que sa façon de comprendre et d'expliquer telle ou telle croyance ou telle pratique religieuse soit la seule valable. Tous les musulmans ne seront pas forcément d'accord avec ce qui est dit dans ce livre. Ce livre ne propose pas de nouvelles interprétations de l'islam. Il présente au contraire la vision qui est la plus communément admise par les chercheurs et les théologiens.
Comment ce livre est organisé ? Pour écrire ce livre, il m'a fallu opérer un tri dans toutes les informations qui concernent une religion vieille de plus de 1400 ans, qui compte 1,3 milliard de fidèles, présente sur tous les continents. Vous ne trouverez certes pas dans ce livre toutes les réponses à vos questions, mais pour faciliter vos recherches, j'ai essayé de regrouper dans une même partie, il y en a 7, tous les sujets qui sont reliés à un même aspect de la religion. Les signaux sonores utilisés dans ce livre. Les signaux sonores attirent votre attention sur différents types d'informations. Texte sacré. Ce signal indique un passage tiré du Coran ou d'un autre texte islamique. Conseil. Ce signal vous aide à décrypter une information importante ou utile concernant l'islam ou vous indique l'attitude à adopter dans diverses situations. À retenir. Ce signal permet de mettre l'accent sur un point important qui pourra vous aider à mieux comprendre l'islam. Attention. Ce signal attire votre attention sur un point sujet à controverse ou source de malentendus. Pour aller plus loin, ce signal annonce une remarque qui va certainement au-delà de ce que vous attendez, mais délivre une information importante pour comprendre l'islam.
Par où commencer ? Ce livre est conçu pour vous permettre d'aller directement consulter ce qui vous intéresse. Rien ne vous oblige à écouter les chapitres dans l'ordre, les uns à la suite des autres. Vous pouvez par exemple commencer par le chapitre 1, pour avoir un aperçu des origines de l'islam et des croyances principales des musulmans, puis choisir les passages qui vous intéressent le plus. Voici un survol des thèmes abordés à parcourir comme bon vous semble. Pour en savoir plus sur ce à quoi croient les musulmans, rendez-vous au chapitre 3, 5, 6, 7, 8 et 11. Pour le culte et les rites musulmans, reportez-vous à la troisième partie. Pour en savoir plus sur l'histoire du monde musulman, filez au chapitre 4 et 16. Pour l'islam et le monde moderne, passez au chapitre 18 et 21. Pour l'islam en France et les relations entre musulmans et non-musulmans, allez au chapitre 16, 17 et 18. C'est vous qui décidez de votre itinéraire.